Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Salut à tous, soyez les bienvenus dans l'Intégral Foot. On est ensemble ce soir jusqu'à 21h. La Dream Team est là, bien présente. Coach Courbis, Fred Piquion à mes côtés pendant 2 heures. Salut messieurs.
Salut les amis et salut à tous.
Salut Benoît.
Je suis ravi de vous retrouver en cette veille de finale de Ligue des Nations pour l'équipe de France, qui est bleue, qui affrontera l'Espagne demain soir.
Quelle veille.
Ah ouais.
On aime ça. La même veille est déjà extraordinaire. Que ça va être la veille. Que
le soir
être,
déjà.
Que ça va être demain.
Le soir déjà.
Alors sachez qu'il n'y a plus.
J'aurais même pas y penser.
Plus un billet disponible. Cette finale.
Oh là 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 là. On fait les uns sur les autres, assis sur les genoux.
Exactement. Attention, on est toujours en période Covid.
Derrière les buts debout.
On aura toutes les infos des bleus.
Le Covid, il va se promener
debout. Exactement. Dans un instant, avec Jeannot Séguier. Et puis, deux débats auxquels vous pouvez participer au 32-16. Est-ce qu'il faut construire autour de ce nouveau schéma tactique en 3-4-3 qui a été mis en place par Deschamps? Et puis, à 19h20, est-ce qu'Antoine Griezmann doit rester intouchable en bleu? À 19h30, on va accueillir Fred Hermel, notre drôle de dame espagnole. Il va tout vous dire de cette équipe d'Espagne New Look. Et puis à 19h45, un invité, Arnaud Calimuendo, l'attaquant de l'équipe de France Espoir, au lendemain de la victoire des Bleus 5-0 contre l'Ukraine hier soir. Événement également à partir de 20h, l'Intégral Foot va faire le bilan de la Ligue 1 après le premier quart du championnat. On aura un grand témoin avec nous jusqu'à 21h, Laurent Batless, l'entraîneur de Troyes. C'est parti pour l'Intégral Foot. Avec un direct, messieurs, avant de retrouver Jeannot Séguier qui est en direct de Milan, c'est à Old Trafford que ça se passe, le stade de Manchester United. Ce n'est pas du foot, mais du rugby, la finale de la Super League de rugby à 13, avec une équipe française, les Dragons catalans, qui vont défier l'octuple champion Sainte-Hélène. Magnifique enceinte et match qui va être commenté par Kevin Gasser. Salut Kevin.
Salut messieurs. Ouais, tu l'as dit Benoît, c'est une superbe affiche. Alors Super League, faut pas s'y méprendre, c'est pas une compétition européenne, même s'il y a français contre anglais. Voilà. C'est bien les Dragons catalans de Perpignan, c'est le seul club français à évoluer en Super League, donc la première division anglaise. Et ils affrontent Sainte-Hélène, donc octuple champion. Et les Dragons catalans, ils viennent tout simplement ici pour remporter leur premier titre. Jamais ils n'ont remporté ce titre de la compétition. Ça fait depuis 2005 qu'ils évoluent. 2005, c'est la création du club. Donc ce soir, ils vont avoir le couteau entre les dents, surtout que c'est les leaders de la saison régulière, ouais. Et donc ils partent favoris dans cette affiche. Le coup d'envoi sera donné d'ici quelques minutes à l'Old Trafford. Voilà, entre les deux équipes. Là, pour l'instant, c'est un petit moment de recueillement. Les joueurs ont les genoux à terre. Et donc le coup d'envoi devrait bientôt arriver. Il y a quand même le stade est quasiment plein. Hein. Il y a 1000 supporters.
Et c'est très suivi le rugby à 13 en Angleterre effectivement. Et on rappelle, comme tu l'as dit, que la seule équipe étrangère entre guillemets sont les Dragons catalans de Perpignan. Roland.
Oui, mais écoute, au niveau de la pub et au niveau, si tu veux, des manifestations, c'est sincèrement, là, je regarde ça avec beaucoup d'attention, mais je découvre, donc ça fait une quinzaine d'années, je sais pas vous, mais bon, moi, j'ai jamais entendu beaucoup parler de ce rugby à 13, donc c'est une très bonne chose, que mieux vaut tard que jamais.
Alors, petit rappel pour les règles, c'est à 13 parce qu'en fait, c'est deux des troisièmes lignes qui sont enlevées du rugby à 15, ce qui fait donc un melting pot entre le rugby à 7 et à 15.
Le rugby à 13 qu'on a connu il y a une vingtaine d'années.
Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup moins de jeu au sol. Et
voilà, c'est moins des phases de combat, c'est plus du jeu et effectivement du mouvement.
Je me rappelle quand j'étais petit que j'allais au stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille. Il y avait le rugby à 13 avec notamment Marseille qui avait une équipe qui s'appelait Marseille 13, vachement original.
Ah ouais. Alors va bien Marseille le rugby à 13.
Et donc, bizarrement, dans ces matchs-là, il y avait plus de bagarres à coups de poing que dans le rugby à 15. Ils se battaient tous. Hein.
On suivra ça en tout cas. Merci Kevin Gasser. Le coup d'envoi n'a pas encore été donné à Old Trafford entre les Dragons catalans et Sainte-Hélène. Avant d'accueillir Jeannot Séguier en direct de Milan pour nous donner toutes les infos autour de l'équipe de France, un petit mot sur des déclats toutes fraîches, messieurs, les déclats signés Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il est présent ce week-end au Festival du Sport, c'est organisé par nos confrères de la Gazzetta dello Sport en Italie. Il en profite pour mettre un coup de pression dans le dossier Kylian Mbappé avec des déclarations, vous allez voir, contre le Real Madrid. Madrid dément, mais je pense que le Real travaille depuis longtemps pour faire signer Mbappé. Il parle de Mbappé publiquement depuis 2 ans, cela doit être puni. Il réclame des sanctions donc contre le Real Madrid. Je vois un manque de respect du Real. Mbappé n'est pas un joueur normal, c'est l'un des meilleurs du monde. L'entraîneur, la direction, les joueurs du Real, ils parlent de Mbappé. Je pense que c'est leur stratégie, mais ce n'est pas respectueux. Et puis sur l'avenir de Kylian Mbappé, il a dit que l'intérêt du club du PSG, c'était toujours de prolonger le contrat de Mbappé. Le plan n'a pas changé. Kylian est un joyau. Il est absolument parfait pour le PSG. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé. C'est un dossier, Fred et coach, qui va nous faire parler pendant des semaines, voire des mois encore. Mais on rappelle que le maître dans cette histoire, c'est Mbappé, qui est en fin de contrat en juin prochain. Et c'est lui qui a les cartes en main.
Peut-être que ça va être réglé rapidement avec une prolongation dans la semaine qui arrive.
Peut-être. Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Fred, tu veux rajouter un truc sur ce dossier si compliqué et si délicat à gérer pour le PSG?
Non, simplement, c'est la vérité, ça serait que c'est que Mbappé, c'est lui qui prendra lui seul la décision. Aujourd'hui, il est en pleine réflexion. Tout le monde, j'ai l'impression quand même que tout le monde part pour lui, à part lui qui a parlé en début de semaine.
Ouais.
Et tout ce qui fait qu'il parle, il le retransmet un peu sur le terrain. Donc, le terrain parle pour lui en ce moment. Donc, tant mieux qu'il reste concentré sur le terrain et c'est comme ça qu'il fera un peu taire tout le monde.
Et d'ailleurs, ouais, si vous voulez entendre Mbappé sur ce dossier, je rappelle qu'il a donné une longue interview à Jérôme Rotten dans Rotten sans flamme. Vous la retrouvez en podcast sur toutes les plateformes.
Et en ce que dit Benoît Leonardo, c'est tout à fait logique puisque c'est même pas une question de respect. Il y a un règlement. Normalement, tu n'as pas le droit de contacter un joueur qui est sous contrat. Alors, évidemment que ça se fait en douce, mais là, c'était pas tellement.
Oui, mais il est agacé aussi par les prises de parole publiques
multipliées. Là, c'est pas tellement en douce quand tu dis bon, ouf, vivement le 1er janvier. Là, donc, calme-toi.
Bon.
Même si tu es président du Real Madrid,
même si on le sait,
ce grand club, calme-toi quand même.
Et toutes les infos sur le dossier, vous les retrouvez sur rmcsport.fr. Messieurs, direction l'Italie à 19h06 sur RMC. L'équipe de France qui prépare cette finale de la Ligue des Nations, finale contre l'Espagne, à suivre demain soir à 20h45 sur RMC. Le vainqueur, je vous le rappelle, succédera au Portugal, vainqueur de la première édition en 2019. Les Bleus qui sortent d'une victoire renversante face à la Belgique. 3-2. Jeannot Rességuier y a certainement laissé sa voix d'ailleurs jeudi soir. Salut Jeannot.
Non, ça va, je l'ai retrouvé. Ah, mais bon, au bout des 90 minutes, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Bonsoir tout le monde.
Buonasera. Jeannot, on est excité avant cette finale. Mais on
c'est que San Siro, c'est la cathédrale de Courbis. Hein. C'est le stade préféré de Courbis. Enfin, tu vois, l'ami de Berlusconi. Enfin, tu sais,
c'est un stade mythique.
Pour faire San Siro,
c'est la cathédrale, elle est magnifique. Ben, depuis 90, depuis la Coupe du Monde.
Le vélodrome d'aujourd'hui, non. Mais le vélodrome que j'ai malheureusement connu, moi, excusez-moi, je l'appelais le courant d'air.
Ouais, exactement. Et depuis qu'il y a le toit, ça s'arrange, effectivement. Jeannot, on a eu.
Je demandais tout le monde quand c'est qu'il le termine. Et un jour, on m'a dit il est terminé. Je dis d'abord, excusez-moi.
Mais il manque un bout. Non.
Tous les jours, on a joué à Marseille. Ah, écoute, on a joué à Marseille-Saint-Etienne dans ce vélodrome avec le Mistral.
Ah, bah oui.
C'est impossible.
Quand c'est qu'il le termine, ce stade.
Un dégagement de gardien de but, il se fait marquer contre son camp, avec le Mistral.
Il est fini, Rouen.
Allez, parlons des Bleus. Jeannot, je le disais, une mauvaise nouvelle aujourd'hui, c'est le forfait d'Adrien Rabiot qui a été testé. C'était positif au Covid. Hein.
Mauvaise nouvelle pour lui.
Oui, mais et pour.
C'est pas
grave. Coach. Qu'est-ce que tu veux que je reprenne derrière ça?
Tu me dis que Mbappé, il a le Covid, je te dis merde. Mais Rabiot, je dis salut.
Ça fait quand même un joueur de moins pour Didier Deschamps.
Et prompt pour rétablissement.
Merci beaucoup. Prenons-le comme ça. En tout cas, il était titulaire contre la Belgique, associé à Pogba dans le rôle de milieu récupérateur relayeur. Oui, donc c'est le règlement qui veut ça avant les matchs européens. Et donc là, l'UEFA donc oblige les sélections à effectuer des tests antigéniques. Alors après, il y en a certains qui sont vaccinés, d'autres pas. Mais ça, c'est le secret médical. Et donc tout le monde fait le test antigénique et il est revenu donc positif pour Rabiot, qui a été placé à l'isolement. Enfin, façon de parler, il est resté à la maison puisqu'il est
à la maison de toute façon.
Avec le maillot de la Juve et qu'il porte maintenant depuis deux saisons. Donc ça veut dire quelque part que il y a plus que 21 joueurs puisque vous savez que Lucas Digne est rentré lui pour un petit souci de douleur musculaire et donc du coup comme c'est un règlement et une compétition fermée avec donc une finale à 4, il y a pas de possibilité de remplacer. Donc ça veut dire quelque part que pour l'équipe de France et qui est en train de s'entraîner en ce moment même puisque le quart d'heure ouvert aux médias vient de s'achever. Est-ce que Didier Deschamps va faire une mise en place tactique possible? Mais fort possible que non aussi. Hein. On a déjà vu ça, veille de grands matchs et veille de finale. Il y a qu'à faire la référence de la Coupe du Monde de 2018 par exemple. Et On a le sentiment que dans la conférence de presse qu'il a donnée cet après-midi, où il a volontairement, il est resté flou par rapport à l'animation collective, oui, à l'animation défensive et offensive. Est-ce qu'il va rester avec trois axios? Est-ce qu'il va repasser à quatre? La tendance est quand même qu'il reste sur le même schéma, avec une modification au milieu de terrain par obligation. Donc celui qui tient la corde, c'est Tchouaméni, pour prendre la place de Rabiot. Après, il y a une véritable interrogation dans le milieu, dans l'organisation des trois axios. Est-ce qu'on reste avec Koundé, Varane et Lucas Hernandez? Et ça veut dire que donc Théo Hernandez reste piston gauche et Pavard piston droit. On rappelle quand même que les Espagnols sont extrêmement dangereux sur les côtés, même si avec Ferran Torres il y a une petite incertitude, ce qu'a confirmé Luis Enrique tout à l'heure. C'est pas annoncé définitivement. Aucun risque ne sera pris, a dit le sélectionneur espagnol.
C'est donc, quoi sa mission?
Cheville. Il a reçu un coup à une cheville lors de la rencontre contre l'Italie. Bon, il y a de fortes chances, nous ont dit nos confrères espagnols, qu'il ne joue pas. Donc, deux côtés, gauche et droit, les couloirs, c'est là où il va falloir travailler. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va remettre dans les trois axios Kimpembe et qu'à ce moment-là, il va utiliser Lucas Hernandez plus dans le couloir gauche et Théo, même s'il est à la maison? C'est quand même un peu moins d'expérience par rapport à l'importance de la rencontre, même si et Lucas et Théo connaissent parfaitement bien le jeu des Espagnols et pour cause, formés à l'Atlético. Donc voilà, les interrogations sont là. Est-ce qu'elles vont être levées dans les prochaines minutes avec la séance à huis clos? Je vous tiens au courant si jamais il y a quelque chose qui ressort. Mais voilà, la vraie tendance, c'est de rester sur la même animation. Est-ce que ce sera un coup de bluff et qui modifiera les choses demain et qui ne fera pas de mise en place ce soir? Là est toute la question.
Merci Jeannot, tu nous tiens informé évidemment, toi ou Loïc Tanzi,
qu'on
trouvera à 20h évidemment pour toutes les infos équipe de France avant ce match donc face à l'Espagne.
Moi j'ai une petite question quand même. Quand t'es coach comme ça, tu fais pas de mise en place parce que tu as des interrogations par rapport à l'équipe que tu peux aligner, parce que tu as des interrogations par rapport à
l'adversaire. Non, parce que tu as peur des fuites.
Ou tu as des interrogations par rapport à ce que tu veux mettre en place.
Excuse-moi, mais j'ai pas compris ta question.
Fred ne comprend pas le fait que Didier Deschamps ne fasse pas de mise en place de veille de match. Et il demandait pourquoi. Comment tu l'expliques, toi?
Pour éviter les fuites.
Ouais, voilà, c'est ce que dit Jeannot, c'est que c'est pour éviter les fuites dans la presse et pour donner les infos à l'adversaire.
Encore que, tu sais.
Ouais, les fuites, la fuite.
Ça sera un secret pour personne, puisque des fuites, automatiquement et obligatoirement, il y en aura. Mais par contre, le fait de continuer avec trois arrières centraux, si je peux me permettre, ça fait.
Ce serait la troisième fois de suite après la Finlande et la Belgique.
Mais alors, justement, c'est pas ça que je voulais, même si cette précision est intéressante, ce que je voulais vous dire, c'est que pendant au moins une trentaine d'années, j'ai réfléchi à pas mal de choses. Si ça peut vous aider, je vous les transmets et j'en serai fier. Je vous en donne déjà une. J'ai l'impression, peut-être je me trompe, j'ai l'impression qu'on parle de l'organisation à trois arrières centraux, comme ça, là, on jette les trois arrières centraux, mais l'organisation à trois arrières centraux, ce qui est au moins autant intéressant que les trois arrières centraux, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les sept autres joueurs de champ dans cette organisation à trois arrières centraux. Et ensuite, ce qui n'a pas été le cas contre la Suisse, et pour moi, des erreurs, on en fait tous, mais ce qui s'est passé contre la Suisse à l'Euro, c'est pas une erreur, c'est une faute professionnelle, quel que soit le sélectionneur et quel que soit l'entraîneur. Tu ne peux pas penser que tu vas passer à trois arrières centraux comme on passe de la mode du Bermuda à la mini-jupe, en mettant n'importe qui, avec n'importe quel profil arrière central côté droit, n'importe quel profil arrière central côté gauche, n'importe quel profil dans l'axe, c'est trois postes totalement différents. Les trois arrières centraux. C'est comme si tu dirais le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 au rugby. Donc à partir du moment où on a les trois arrières centraux, et là, je vous les explique. L'arrière central axial, c'est le libéro d'une certaine époque. C'est le Hilton de Montpellier.
Donc c'est Varane.
C'est le Varane de notre équipe de France. L'arrière central côté droit, c'est un droitier qui connaît le poste d'arrière droit, c'est encore mieux. Et pour moi, c'est Pavard ou Koundé, avec un petit avantage pour Pavard. Et l'arrière central côté gauche, c'est un gaucher qui va coulisser derrière le couloir gauche. Et quand contre la Suisse, on met l'anglais pour séparer Varane et Kimpembe, là, sincèrement, quand on me parle qu'on perd contre la Suisse au tir au but, parce que on était à 3-1, mais parce qu'on était à 3-1, parce qu'on perdait 1-0 et peut-être même pas loin d'être 2-0. Donc c'est là, mais c'est pas grave. Celle-là, elle est malheureusement emmerdante comme erreur, mais n'en refaisons plus une autre. Avec, si maintenant on met trois arrières centraux, que ce soit chacun son poste, le profil des trois arrières centraux.
Et je termine là-dessus.
Occupons-nous aussi de ce qu'on fait avec les sept coéquipiers de ces trois arrières centraux.
Alors justement, on va continuer de parler de ce schéma tactique dans un instant avec Fred Picken et coach Courbis, ce fameux 3-4-3 qui pourrait être aligné pour la troisième fois consécutive. On parlera également du rôle d'Antoine Griezmann, un match particulier pour lui demain. Centième sélection sous le maillot des Bleus. Donc quel rôle pour Griezmann? Est-ce qu'il doit rester incontournable dans cette équipe? On en parle dans un instant avec Fred et coach, ne bougez pas.
RMC Intégral Foot,
Benoît Boutron
avec Fred Piquet et coach Courbis jusqu'à 21h sur RMC. Évidemment, on vous parle de cette finale de la Ligue des Nations qui aura lieu demain soir entre la France et l'Espagne, qu'on envoie 20h45 sur RMC. Dans un instant, on continue de débattre du schéma tactique, ce fameux 3-4-3 avec coach Courbis et Fred. On parlera également du rôle d'Antoine Griezmann, qui est incontournable en bleu, centième sélection demain soir pour lui, mais qui est plus en difficulté en club notamment. Et puis dans un quart d'heure, on reçoit Fred Hermel, notre drôle de dame espagnole, qui nous dira tout de cette Espagne New Look dirigée par Luis Enrique. Le direct, c'est du rugby, évidemment, avec la finale de rugby à 13 entre les Dragons catalans et Sainte-Hélène. C'est à Old Trafford que ça se passe, Kevin Gasser.
Oui, c'est la 12e minute de jeu et les Dragons catalans mènent 2-0. Ils ont ouvert le score grâce à leur ouvreur James Maloney, l'Australien, sur une pénalité, pourtant contre le cours du jeu, parce que les Dragons catalans sont acculés dans leurs 10 derniers mètres depuis le début de la partie, et là ils s'en sortent un peu mieux. Ils arrivent à gagner du terrain. 12e minute de jeu, pour l'instant encore assez fermé, 2-0 pour les Dragons catalans face à Sainte-Hélène.
Tu te rends peut-être pas compte, excuse-moi de te dire ça, mais là, il y en a beaucoup de gens qui découvrent qu'en rugby, on peut mener 2-0.
Oui. Tu as bien fait, Roland, parce que les règles au rugby à 13 sont différentes. Un essai, c'est 4 points. Transformation, 2 points. Pénalité, 2 points. Et un drop, c'est seulement 1 point.
Eh ouais. La fin de la victoire, le drop,
c'est 1 point seulement.
Ça fait 2-0 pour les Dragons catalans.
Tu as vu, je ne sais pas si j'ai porté la scoumoune. J'ai déjà vu une droite dans la gueule
de la rencontre.
Si c'est le fait d'être 13 que ça donne envie de mettre des droites, mais bon.
Ça fluidifie.
13, ça fait 26 droites.
Bon, restons dans les chiffres. Parlons de ce 3-4-3 mis en place par Didier Deschamps. On a entendu coach Courbis. Ton avis à toi, Fred Piquen. Évidemment, ce schéma a marché en partie contre la Belgique, notamment en seconde période. On a l'impression que Didier Deschamps l'a mis en place pour justement mettre dans les meilleures dispositions ses joueurs cadres. Et on pense forcément à Paul Pogba dans le cœur du jeu, mais aussi à Antoine Griezmann qui, grâce à ce schéma tactique, se retrouve au cœur du jeu et non plus exilé sur un côté.
Au-delà de ça, il a vu qu'il y avait des joueurs comme Coman qui étaient peut-être aussi blessés.
Ouais.
Et par rapport au match de la Finlande qui a été très bon, il faut le dire, et ça c'est vrai, par rapport à l'animation, ce qu'on a vécu, peut-être qu'il s'est dit, je vais prendre des profils qui vont permettre de faire un 3-4-3 aujourd'hui, tout simplement. C'est ça marché. Il a recentré parce que le 4-3-3 aujourd'hui il marche pas. Et on l'a vu, il y a l'animation, on n'aime pas. Donc ce 3-4-3 qui a donné satisfaction en tout cas pour lui. Lui a permis de faire une liste assez avec des profils qui lui permettent de faire le 3-4-3, et je pense aussi que aujourd'hui c'est peut-être il faut peut-être par rapport à Pavard, par rapport à Hernandez, par rapport à Varane, par rapport à Kimpembe, par rapport à
il y a beaucoup de centraux
donc et des latéraux, Dubois. Pour moi, c'est pas un gage de sécurité.
Dubois, si tu veux, dans le profil de latéraux, est-ce que moi te couper, parce que tout à l'heure, tu parlais de profil. Dubois, pour moi, ça a quand même le profil du plus piston. d'un arrière droit d'une organisation à trois arrières centraux
que
par rapport à Pavard, oui. Il est plus piston pour moi Dubois que Pavard. Oui. Mais oui. Par contre, ce que je pense moi, et même si on n'est pas là en face d'un tableau, ce que je veux expliquer pour moi, qui est le calcul de Didier, dans le 4-2-3-1 avec Sissoko ou Matuidi. C'est-à-dire un 4-2-3-1 avec déguisé. Un joueur qui n'est pas à son poste.
Déguisé. Voilà.
Donc là, maintenant, on continue dans le déguisement. C'est-à-dire qu'on met trois arrières centraux avec Pavard.
Un quatrième sur le côté.
Qui est sur un côté. Ouais. Pavard, c'est le Matuidi et le Sissoko. Si tu le fais monter d'un cran, tu coulisses Koundé derrière Pavard. Tes deux arrières centraux, c'est Hernandez et Varane. Et ton couloir gauche, c'est ton arrière gauche.
Bien sûr.
Et Pavard, c'est ton Matuidi ou ton Sissoko. Donc,
mais défensivement, on voit, c'est exactement ce système-là, en fait. Ah ouais. Défensivement.
Voilà. Et donc, si tu décales comme ça deux joueurs de 10 mètres, tu es en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, avec notamment tes trois attaquants, qui sont toujours Griezmann, Mbappé,
Benzema,
qui auront la possibilité
de permuter. Sur le but de la victoire contre la Belgique, on a une passe du piston droit pour le piston gauche, puisque c'est Pavard qui centre pour Théo Hernandez.
Ouais, parce qu'il joue très haut. On était en 3-5.
Oui, ça nous rajeunissait.
3-2-5,
rajeunissait de 3-4 ans quand il y a eu justement le centre d'Hernandez pour Pavard. Et d'ailleurs, comme on parle d'une équipe de France qui a retrouvé sa solidité, je n'ai pas l'impression que contre l'Argentine, c'était 4-3. J'ai l'impression que c'était 1-0.
Alors justement, je voulais vous parler du rôle occupé par Antoine Griezmann. On le rappelle, il est inamovible en équipe de France. J'ai quelques chiffres à vous donner. On sait que les performances sont moyennes en club, mais c'est assez dingue ce qu'est en train de réaliser Antoine Griezmann. 100e sélection demain soir contre l'Espagne. Il prolonge surtout un record hallucinant en bleu, 54e titularisation consécutive dans un match officiel, que ce soit un match de qualification ou dans une phase finale. En tout, ça fait 57 matchs disputés d'affilée avec l'équipe de France, des matchs compétitifs pour Antoine Griezmann. La dernière fois qu'il n'a pas démarré un match en équipe de France, un match qui compte, c'est contre l'Albanie à l'Euro 2016. On le rappelle, Griezmann est un peu en difficulté avec l'Atlético depuis qu'il est revenu à Madrid. Il a semblé en dessous mercredi, en dessous des deux autres attaquants Mbappé et Benzema. Est-ce qu'à votre avis, Fred et coach Courbis, Griezmann doit rester intouchable dans cette équipe de France sous Didier Deschamps?
Écoute, ça me dérange pas de répondre. Intouchable pour une 100e sélection, il y a quand même une relation qui s'est créée entre un entraîneur des fois et un joueur et un sélectionneur.
C'est son homme de base,
et un joueur. Donc là, le gars, il fête son anniversaire de la centième fois que tu viens de dire.
Centième sélection demain soir.
Centième sélection, une finale d'une compétition, je dirais pas une compétition en bois, mais c'est au-dessus des matchs amicaux, donc c'est une compétition qui est née depuis 2-3 ans. Ok.
C'est tout simplement
impossible pour Didier, sauf s'il est blessé, de ne pas le mettre. Après, de ne pas le mettre 90 minutes, voire les prolongations. Il y a les prolongations, Jeannot, s'il y a match nul.
Ah, Jeannot est parti, on le retrouvera tout à l'heure à partir de match.
Je crois qu'il y a prolongation.
En cas de match nul, c'est
la troisième place qu'il n'y a pas de prolongation. Donc là, à partir du moment où c'est comme ça, il démarre, et on fera le point à la mi-temps, et on fera le point éventuellement pour le remplacer à la 60e minute en fonction des événements. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il est moyen. Si l'équipe de France s'était fait éliminer contre la Belgique, je pense qu'il aurait peut-être soufflé.
Il aurait fait tourner. Mais est-ce qu'on parle de demain seulement, ou alors jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à temps qu'il performe en équipe de France?
Ouais, pas seulement demain, sur les autres rassemblements qui auront lieu, Griezmann, c'est l'homme de base de Deschamps, qu'il soit bon ou pas avec son club, que ce soit avec le Barça ou avec l'Atlético.
C'est un homme de base parce qu'il y a une confiance qui s'est mise entre le sélectionneur et le joueur.
Les amis, Griezmann.
Et puis c'est un bon joueur surtout.
Griezmann, c'est si tu veux plus ancien encore que Mbappé. Mais aujourd'hui, si Didier Deschamps a certaines habitudes avec Griezmann. S'il y a Mbappé qui est pas blessé, Mbappé il est
Mbappé,
titulaire.
Griezmann, Benzema aujourd'hui titulaire, Varane titulaire, Pogba titulaire, N'Golo Kanté normalement aussi titulaire s'il est là, s'il est pas blessé et s'il a pas le Covid. Donc il y a des joueurs comme ça, il y a une ossature dans cette équipe de France qui est inamovible,
ouais,
qui ira jusqu'au bout sans que les joueurs ne sont pas blessés ou suspendus.
Et un petit renvoi d'ascenseur dans une période difficile de Griezmann. de la part de Didier Deschamps, je trouve ça tout à fait logique et tout à fait sympa.
D'autant plus qu'on peut rappeler qu'il a été important tout de même dans ce match contre la Belgique. C'est lui qui provoque le pénalty avant de décaler Benjamin Pavard sur le troisième but, le but du 3D pour l'équipe de France. Il y a aussi un autre argument, les gars, c'est que on a l'impression que Griezmann, dans cette équipe de France, il n'a pas de remplaçant naturel. C'est-à-dire que si tu installes ce schéma en 3-4-3, et si jamais Griezmann n'est pas là, il faut que tu changes ton animation offensive, coach Courbis, parce que lui, c'est une sorte de vrai numéro 10, de vrai meneur de jeu derrière les attaquants Mbappé et ouais. Benzema.
D'accord, mais si par exemple tu as un Coman, c'est difficile de s'en priver aussi. Donc après, tu
mais c'est pas le même registre.
Mais c'est pas le même registre.
Non, mais ça, c'est ce qu'il disait Benoît, c'est de chercher un autre numéro 10 en fait. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un autre numéro 10 aussi fort dans un grand club européen? Je suis pas sûr. Donc oui, forcément, changer l'animation offensive de cette équipe.
Si tu veux
de France.
Numéro 10, c'est-à-dire meneur de jeu, tu peux considérer que dans cette organisation, Pogba, c'est ton 8 qui devient 10 quand on a le ballon. Donc, alors c'est vrai que Pogba, ok, lui, il bouge pas. Mettre quelqu'un à la place de Griezmann qui lui ressemble, ben pour le moment, il y en aura peut-être dans quelques mois. Pour le moment, je vois pas qui peut se dégager.
Et même derrière, hein, même en équipe de France Espoir, je vois pas le profil qui pourrait jouer à la place de Griezmann.
Profil de numéro 10, ouais, c'est délicat, effectivement. Je cherche même dans l'équipe de France Espoir, il y a des joueurs, bon après on en est loin, hein, mais des joueurs comme Amine Adli ont un peu le profil qui peuvent jouer un peu derrière l'attaquant, mais bon c'est...
Il a beaucoup joué sur un côté quand même à Toulouse,
exactement.
Amine Adli.
D'Antoine Griezmann, on va juste rappeler effectivement que demain c'est la 100e sélection pour lui, 41 buts quand même hein, pour Griezmann, il est à 10 buts de Thierry Henry, c'est celui qui est le plus près du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, puisqu'Olivier Giroud n'est plus appelé en équipe de France, il pourrait pourquoi pas remonter sur le record de Thierry Henry. 19h28, un point sur notre direct avec cette finale de rugby à 13 entre les Dragons catalans et Saint-Hélène, Kevin Gasser.
Oui, les Anglais de Saint-Hélène qui passent devant grâce à un essai marqué par le Fidjien Kevin Nekama, heureusement pas transformé pour les Dragons catalans. Ça suit la même physionomie, les Anglais toujours plus offensifs et les Dragons catalans qui ont du mal à sortir le ballon. Donc là, on joue la 21e minute de jeu, 4-2 pour les Anglais face aux Dragons catalans de Perpignan.
Merci Kevin. Et puis vous le savez, habituellement le samedi soir, vous avez rendez-vous avec l'Intégral Foot Ligue 2. On est là avec Fred Piquion pour vous faire suivre toute cette saison. Et comme l'an dernier, RMC Sport et BKT mettent en valeur les joueurs qui brillent dans ce championnat. Vous pouvez aller tout de suite sur le compte Twitter d'RMC Sport pour voter pour vos talents RMC BKT. Tous les postes sont concernés. Il vous reste quelques heures pour participer. Allez voter pour le joueur de votre choix. 19h29, on continue de vous présenter cette finale de Ligue des Nations demain soir entre la France et l'Espagne en accueillant dans un instant notre drôle de dame espagnole, Fred Hermel. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Avec Fred Piquion et coach Courbis jusqu'à 21h. Un invité dans un quart d'heure, Arnaud Kalimuendo, l'attaquant des Bleuets et du RC Lens. Il sera en direct avec nous au lendemain de la victoire de l'équipe de France Espoir contre l'Ukraine. 5-0, 19h33 avant d'accueillir Fred Hermel, un point par Old Trafford, évidemment, notre direct, c'est la finale de rugby à 13, le championnat de rugby à 13 qui oppose les Dragons catalans à Saint-Hélène, Kevin Gasser.
Et Saint-Hélène, ce qui aggrave un peu le score, qui a avec une pénalité marquée, inscrite par Lachlan Couty, pas facile à prononcer, un écossais demi d'ouverture de Saint-Hélène. Là, c'est un bon temps fort des Dragons catalans et c'est rare dans cette première période. Les Dragons catalans, le titre on peut dire s'éloigne un petit peu, peut-être qu'ils payent un manque d'expérience dans ces grands rendez-vous.
On rappelle que c'est un peu David contre Goliath, c'est la finale de la Super League, d'un côté les Dragons catalans qui font la première finale de leur histoire, de l'autre l'octuple champion Saint-Hélène.
Saint-Hélène c'est aussi double tenant du titre, voilà. Donc qui pour l'instant a l'expérience des grands rendez-vous. Toujours est-il que les Dragons catalans, ça s'échauffe encore un petit peu, ça se bouscule beaucoup ici à Old Trafford, on le rappelle, peut-être environ 40 000 spectateurs selon les estimations des réseaux sociaux. On en est toujours à la 25e minute de jeu, 6-2 pour Saint-Hélène face aux Dragons catalans.
Et tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose.
Il y a l'essai là.
Peut-être un essai pour les Dragons catalans, finalement c'est repoussé par les
Dragons. On est loin, c'était une illusion d'optique.
On
a vu la
Roland, t'as plus de pif à 15 qu'à 13. Tiens, accueillons Fred Hermel, notre drôle de dame espagnole. Salut Fredo, hola Chico.
Hola Chicos.
Salut, bon,
salut les amis.
Il est là notre Fredo. Eh oui, l'Espagne est en finale de la Ligue des Nations. Tout le monde pensait que la finale allait opposer l'Italie à la France ou à la Belgique. Eh bien non. L'Espagne est venue à bout du champion d'Europe.
On l'a entendu, Fred, en début de semaine. Oh ben non, l'Espagne, vous savez.
Tu te rappelles ça...
Excusez-moi de vous rapporter ce que pensent les gens en Espagne. Même demain, il y aura des gens qui vont tenir avec la France. Hein, donc, des Espagnols qui vont tenir avec la France demain hein, pour Benzema et Mbappé.
Ah,
oui,
bien
hein.
Parce que les
gens de l'Atlético vont soutenir la sélection. D'accord. C'est les gens du Real, parce que c'est Luis Enrique, et qu'il y a, ça fait des mois, depuis la liste pour l'Euro, qu'il n'y a pas de madridistes convoqués par Luis Enrique. Donc il y a un ressentiment très fort anti-Luis Enrique, ce qui fait que, alors je ne dis pas tous, mais une partie des supporters du Real Madrid vont soutenir l'équipe de France pour Benzema et pour celui qu'ils veulent voir en blanc un jour, c'est-à-dire Kylian Mbappé.
Fredo, est-ce que tu me permets de rappeler le contexte? Donc on rappelle que l'Espagne confirme son retour en forme, l'Euro a été réussi, cette défaite en demi-finale à Wembley contre l'Italie, mais seulement au tir au but, hein, Gigio Donnarumma avait été énorme. Ils ont pris leur revanche donc mercredi soir en battant l'Italie chez elle, mettant fin à une série hallucinante pour les Italiens de 37 matchs sans défaite. Je vais juste vous rappeler que l'Espagne est une équipe extrêmement rajeunie, par choix et également par obligation.
Nécessité,
parce qu'il y avait des absents majeurs, au moins 9 joueurs, parmi lesquels Morata, Moreno, Olmo, Pedri, Alcantara ou encore Jordi Alba. Donc là, on a puisé dans le réservoir et c'est le collectif qui a fait la différence, hein, Fred.
Oui, c'est le fait qu'il y a toujours en Espagne, on va pas rappeler ce soir la formation et la qualité de la formation en club, il y a un réservoir de joueurs très bons en Espagne. On n'est pas sur une génération extraordinaire pour l'instant. Enfin, je pense qu'on est dans une... Il y a des joueurs qui pointent leur nez comme Gabi, Pedri, bien entendu, qui est appelé à être un grand joueur. Ansu Fati, qui revient d'un an de blessure avec le Barça. Donc, il y a de bons joueurs. Mais pour l'instant, dans cette équipe-là, il n'y a pas encore de stars. Moi, j'ai le coutume de dire que la star, c'est Luis Enrique. Et que lui, il prend tout sur lui. Mais c'est vrai que, en Espagne, il n'y aura jamais de problème pour trouver de bons joueurs techniques parce que la formation des clubs reste excellente. Même si on est dans une période avec une baisse du niveau de la Liga qui est évidente et des résultats européens des clubs espagnols, la baisse est évidente, mais la production de joueurs reste toujours très, très bonne. Donc, il y a toujours des joueurs pour jouer dans le style espagnol. Ah ouais. C'est-à-dire, avec la balle, des joueurs techniques, en général des petits gabarits, qui ont le ballon. Et d'ailleurs, Luis Enrique l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, il n'y a qu'un ballon et on le veut pour nous. Donc contre la France, ils ne vont pas subir, ils veulent le ballon.
Tu as raison, il a dit effectivement qu'il s'appuyait sur un réservoir de 40 à 50 joueurs. On va rappeler qu'ils ont eu 70% de possession de balle contre l'Italie, même si l'Italie a été rapidement réduite à 10 après l'expulsion de Bonucci. Écoutez ce qu'a dit Luis Enrique à propos de ce duel demain face à l'équipe de France.
C'est indiscutable que leurs attaquants sont incroyables et qu'ils peuvent faire changer le cours d'un match. Mais non, on ne va pas changer notre équipe pour autant. C'est un sport collectif. On a battu le champion d'Europe. À nous de battre le champion du monde. Il n'y a pas meilleure motivation.
Voilà, l'envie de battre le champion du monde après avoir battu le champion.
Mais Messi va faire des changements. Bien sûr qu'il va faire des changements.
Il va faire des changements, mais
il devrait même changer de système. Passer en 4-2-3-1 pour défendre contre trio d'attaque qui fait peur. Quoi.
Fred, juste une petite question, une petite précision, parce que ça n'a pas été vraiment clair de la part de Luis Enrique. Est-ce que tu nous confirmes, Fred, que Ferran Torres sera forfait demain soir, le joueur de City, 21 ans, c'est lui qui a mis le doublé contre l'Italie ou il y a une incertitude?
Il y a encore une incertitude pour l'instant.
Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, donc on verra.
En tout cas, ce n'est pas officiel.
Ça dépend si c'est une torsion ou si c'est un coup. Si c'est un coup, peut-être qu'il peut jouer. Si c'est une torsion, c'est un peu plus ligamentaire. C'est un peu plus délicat. Maintenant, mais moi, je voudrais revenir quand même sur l'équipe d'Espagne. On dit que ça va pas se regarder ou l'équipe d'Espagne. On va chercher dans les des joueurs qui sont peut-être entre guillemets moins bons. Mais quand t'as Marcos Alonso, Azpilicueta, ils sont quand même champions d'Europe. T'as Pau Torres derrière. Qui joue à Villarreal, qui est à finale, qui fait finale de Ligue Europa. T'as Laporte, bon, qui joue quand même à City. Ferran Torres qui joue à City.
T'as remarqué en plus.
T'as quand même des joueurs aujourd'hui dans cette équipe qui font des matchs de haut niveau tous les week-ends.
Oui, attention. Coach Combi, c'est pas content. Deux gauchers en défense centrale.
Ben voilà.
Ah ouais.
Non, mais j'ai jamais dit qu'il y avait pas de bons joueurs. L'Espagne, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit. Tu m'as pas écouté.
Non, il y a un réservoir extraordinaire. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que quand tu regardes l'équipe, l'équipe quand même, c'est une très très bonne équipe.
Ah, mais il y a jamais doute, et il y aura, et même dans 50 ans, il y aura toujours de bons joueurs espagnols s'ils continuent à former comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de stars. Ouais. C'est ça la différence. Oui, mais, aujourd'hui, aucun joueur là est numéro un quelque part dans est numéro un ou numéro deux du monde ou numéro ou même numéro trois du monde.
Ouais. Quand on regarde jouer l'équipe d'Espagne dans notre Euro, est-ce qu'on peut pas s'en foutre qu'il n'y a pas de stars? On va pas non plus les inventer. Moi, ce que je me rappelle, c'est que cet été, le jour où l'Espagne est éliminée contre l'Italie, j'ai pas mal d'amis italiens. Je leur ai dit, je préfère être italien ce soir qu'espagnol.
Ah, c'était le match le plus dur pour les Italiens de l'Euro.
Et quand je vois ce qui s'est passé contre l'Italie, même s'il y a eu cette expulsion qui force toujours tout, enfin bref, je vais pas revenir chaque fois là-dessus avec mon carton orange que je demande poliment depuis une quarantaine d'années pour ne pas nous bousiller des matchs, nous qui sommes des passionnés devant notre télé ou dans un stade. Là, demain, ce que je constate, c'est que il leur manque quand même Moreno, Morata.
Oui.
Et éventuellement Torres. Bon, ils vont quand même se débrouiller de trouver une solution. Ils ont deux arrières centraux, gauchers, c'est pas la meilleure solution pour être bien complémentaire. Mais bon, c'est pas non plus impossible de pouvoir jouer de temps en temps avec deux arrières centraux, gauchers. Mais demain, avec un jour de plus de récupération, si c'est pendant une semaine, tu t'en fous que ce soit 6 ou 7 jours. Mais là, dans la période que nous sommes, début octobre, avec les joueurs qui jouent tous les 3 jours. Donc, avoir un jour de plus de récupération, je pense que c'est une bonne. Je serais surpris, moi, que l'équipe de France gagne facilement. Ouais. Je pense que c'est très compliqué de battre ces Espagnols.
Ah, mais bien sûr, parce que déjà, il faudra leur prendre le ballon. Et c'est ça le truc.
Parce que l'équipe d'Espagne dans la possession, finalement, c'est Espagnols.
Mais ça, et ça, c'est évident. Et Lucien Riquet l'a annoncé clairement. Mais de toute façon, ils savent pas faire autrement. C'est ça le truc. C'est que depuis tout petit, on leur apprend à jouer avec le ballon. Donc, c'est ça. Après, bah oui, c'est même mieux, hein, tu sais. Donc, il y a quelque chose de magique dans la transmission de ce goût pour le ballon et pour les joueurs techniques qu'il y a en Espagne. Mais aussi parce qu'il y a des recruteurs qui sont faits pour ça. C'est-à-dire que dans les équipes, on va toujours privilégier un joueur technique à un joueur physique dans les recrutements des jeunes. Donc, ce qui n'a pas été le cas en France. En Espagne, ce qui n'a pas été le cas en France. Puisqu'à Griezmann, on n'en a pas voulu. Et il a dû s'exiler en Espagne pour qu'on l'accepte dans une école de football à la Real Sociedad de Saint-Sébastien, plus exactement. Donc voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Luis Enrique quand même. Parce que moi, Dieu sait si je l'aime pas, parce que
je te coupe simplement pour te dire en deux phrases ce que j'ai pensé de Luis Enrique à l'Euro. C'est que bon, quand j'ai vu cette finale, je me suis dit, si Luis Enrique est entraîneur, sélectionneur de cette équipe d'Angleterre avec l'effectif de l'Angleterre, l'Italie n'est pas champion d'Europe. Mais bon, je pourrais jamais le prouver.
Donc, ce qui veut dire que c'est un coach que t'aimes bien alors.
Je le trouve extraordinaire.
Mais Luis Enrique est très fort. On oublie qu'il
a. Ça ne veut pas dire que Mancini est bidon.
Non, bien sûr.
Mais
non,
je vois Enrique
un peu au-dessus.
Un petit peu au-dessus, okay, compte tenu de ce qu'il a pu faire en si peu de temps. Lui aussi, Mancini en 3 ans, il a fait quand même cette série.
37 matchs.
Mais quand j'ai vu le Italie-Espagne, je te redonne la parole, bien évidemment, Fred. Quand j'ai vu Italie-Espagne, je dis putain, on dit bravo pour Mancini, il le mérite, mais bon, et Enrique, qu'est-ce qu'on doit dire alors?
C'est vrai.
Non, Luis Enrique, on oublie souvent qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça, et qu'il avait fait évoluer cette équipe du Barça. Ce que, après la grande époque de Guardiola, ce qui était passé n'est pas parvenu à faire évoluer ça. Lui, il a réussi avec parfois un jeu un petit peu plus direct qui avait fait du bien au Barça. Là, il a plusieurs choses pour lui. Déjà, il a la confiance absolue du président de la sélection. C'est-à-dire que même s'il avait été éliminé au premier tour de l'Euro, il aurait été encore entraîneur. Ça, c'est sûr, sélectionneur. Ensuite, il a, pour lui, et on en discutait tout à l'heure hors antenne, Il a un style à la Mourinho, c'est-à-dire que la star de l'équipe, c'est lui. Il prend tout dans la gueule. C'est-à-dire, il fait tout pour tout prendre, lui, dans la gueule, pour préserver ses joueurs. Il est le bouclier, il est le rempart pour les joueurs. Et c'est pourquoi il est souvent provocateur. Par exemple, il a encore... Le fait de mettre le jeune Gavi qui a très peu joué en avec première division.
Qui a 17
avec
ans,
le Barça,
plus jeune international espagnol.
Voilà, que le Barça va pas bien en ce moment... Et donc il y a tout un des critiques en Espagne. Comment il peut sélectionner un joueur comme ça, tatata. Il le met titulaire déjà parce qu'il pense qu'il va bien faire son boulot, mais il le met aussi comme provocation et ça marche. Parce que qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Quand les gens le critiquent, lui, il unit son vestiaire face à ses critiques en disant t'as vu ce qu'ils disent de toi là, que tu vas pas être bon. Et le mec il se défonce après. Ouais. Donc il a un management un peu à la Mourinho, avec en plus une connaissance tactique et une connaissance des joueurs espagnols assez exceptionnelle. Donc oui, c'est un très grand entraîneur. Après moi je n'aime pas. Je pense qu'un sélectionneur, un entraîneur peut faire ce qu'il veut. Je pense qu'un sélectionneur d'un pays doit unir. Et lui il aime bien désunir.
Mais c'est vrai que c'est un personnage un peu clivant, mais ça reste un technicien hors pair. Merci Fred d'avoir été avec nous.
Merci les amis.
Merci. Évidemment on se retrouve.
Salut.
On en parlera demain évidemment de ce match. On rappelle, finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne, 20h45 sur RMC. On reparle de l'équipe de France à partir de 20h avec Loïc Tanzi, avec notamment un focus autour d'Aurélien Tchouaméni. 19h46, on se quitte un instant et on accueille notre premier invité de la soirée. C'est Arnaud Calimuendo, l'attaquant de l'équipe de France Espoir. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Avec Coach Courbis et Fred Piquion ce soir jusqu'à 21h. Et puis à partir de 20h, un invité, Laurent Batles, entraîneur de Troyes. Il viendra faire le bilan avec nous de la Ligue 1 après le premier quart du championnat. Soyez là, ça va être passionnant, évidemment. On a un direct, c'est la finale de la Super Ligue de rugby à 13 entre les Dragons catalans et Saint-Hélens. Kevin Gasser.
Oui, nous sommes à quelques secondes de la mi-temps. 6-4 pour Saint-Hélens grâce à une pénalité inscrite par les Dragons catalans. Pénalité à la 28e par l'ouvreur australien James Maloney. Et on est toujours sur les mêmes bases. Hein. Il y a de l'ambiance en tribune et sur le terrain, ça chauffe. On a vu tout à l'heure à la 33e les deux piliers des deux équipes se prendre au col. Voilà, pas de cadeau. Ici, possession pour les Anglais qui sont toujours dominateurs. Il reste moins d'une minute à jouer. 6-4 pour Saint-Hélens.
Allez, 19h49, parlons d'une autre équipe de France, celle des Espoirs qui s'est relancée hier soir à Brest. Une victoire 5-0 contre l'Ukraine. C'est un match de qualif pour l'Euro 2023. Un résultat qui fait oublier la contre-performance aux îles Féroé lors de la première journée avec ce nul, un but partout. On va en parler avec Arnaud Calimuendo, auteur de l'ouverture du score hier soir. Salut Arnaud.
Salut.
Merci d'être avec nous. Félicitations pour la victoire d'hier. C'était face à l'un des adversaires les plus forts du groupe, hein, l'Ukraine. Il y aura également un match important en Serbie mardi, mais vous avez gagné et en plus avec la manière. Donc j'imagine que vous êtes très satisfait, Arnaud.
Oui, je suis très satisfait du résultat et du contenu que l'équipe a proposé. On avait à cœur de faire une très bonne prestation devant notre public et à domicile surtout. Et après la contre-performance aux îles Féroé, c'est une chose de faite. Et maintenant, je pense qu'il faut qu'on continue sur cette dynamique face à la Serbie pour ramener aussi les 3 points.
Ça récompense aussi le renouvellement de génération chez les Espoirs. Hein. Toi, tu arrives, tu étais là lors du quart de finale de l'Euro en juin, puisque tu avais remplacé Randal Kolo Muani qui avait été conservé par le FC Nantes. Mais tu es un petit peu nouveau dans ce groupe. Je pense à Amin Adli, Malo Gusto ou encore Ryan Cherki. C'est aussi la récompense pour ces jeunes joueurs-là qui découvrent l'équipe de France Espoirs.
Oui, on a l'équipe a changé par rapport à l'année dernière et on a une très belle génération avec de très bons jeunes et je pense que le temps que nous trouvons chacun notre automatisme avec nos coéquipiers, je pense que ça va donner quelque chose de magnifique. C'est ça prend du temps, mais c'est une équipe qui se construit et qui grandit ensemble. Donc ça se fait à l'entraînement, on continue de travailler et on espère qu'on fera une grande chose.
Arnaud, quand on est attaquant et qu'autour de soi on a Amine Gouiri, Amine Adli, Sofiane Diop ou encore Ryan Cherki pour avoir des ballons, c'est plus facile quand même.
Ouais, c'est des joueurs qui sentent le football. On n'a pas besoin de parler, c'est vraiment le feeling, le terrain, la technique. Ça combine, ça va vite et ce sont des joueurs vraiment avec qui j'aime jouer. Donc je prends beaucoup de plaisir en venant ici en sélection et je pense que ça se ressent sur le terrain.
Alors cette équipe de France Espoir a eu un été compliqué, je le disais, il y a eu l'élimination en quart de finale de l'Euro contre les Pays-Bas, tu y étais, c'était au début du mois de juin. Ensuite, il y a eu l'équipe de France Olympique qui a été éliminée dès la phase de poule au Japon. Sylvain Ripoll était déjà l'entraîneur de ces deux sélections, il a été fortement critiqué. Comment tu le sens? Est-ce qu'il a été affecté par ce qui s'est passé ou est-ce que tu le sens encore motivé et conquérant pour cette campagne en vue de l'Euro 2023?
Non, c'est un très bon coach qui a d'expérience et ça se ressent car il est toujours là nous motiver à nous booster à ce qu'on donne le 100% de nous-mêmes et je pense que oui il a beaucoup d'ambition sur les compétitions à venir donc nous devons de répondre sur le terrain et c'est ensemble qu'on pourra faire de grandes choses donc Je sais que c'est le coach qu'il faut pour la sélection et j'espère qu'on pourra aller plus loin possible.
Arnaud Kalimuendo, l'attaquant de l'équipe de France Espoir et du RC Lens, est en direct avec nous sur RMC. Arnaud, il y a un match important en Serbie mardi soir pour confirmer ce bon résultat obtenu hier, cette victoire 5-0 contre l'Ukraine. C'est un match piège en Serbie, vous êtes déjà concentré sur cette affiche?
Oui, on sait que c'est une très belle équipe. Qui a de nombreux talents et on sait que de toute façon dans les matchs en espoir rien n'est facile donc va falloir mettre les ingrédients pour ramener les 3 points en France.
Je rappelle le système de qualification, vous êtes en tête de ce groupe H devant l'Ukraine, vous avez 7 points, les Ukrainiens ont 6 points, derrière il y a les Féroé avec 5 points, la Serbie avec 4 points, le premier du groupe est directement qualifié, le deuxième doit passer pour les barrages pour disputer cette Euro 2023. Plus globalement pour toi Arnaud Kalimuendo, quelles sont tes ambitions chez les Bleuets? Je le disais, tu découvres effectivement cette équipe, tu es passé par d'autres équipes de France de jeunes, tu as tout juste 19 ans. Est-ce que tu penses à cet Euro 2023 d'ores et déjà? Est-ce que même les Jeux de 2024 sont déjà dans un coin de ta tête, Arnaud?
Oui, bien sûr, j'y pense. Je sais que j'ai l'ambition. Après, je brûle pas les étapes, bien sûr, mais je fais tout sur le terrain pour déjà rendre satisfaction au coach. Et après, je ne détiens pas tout, donc je donne simplement le meilleur de moi-même et après, je me laisse guider.
Arnaud, des Jeux à domicile à Paris, pour toi, le Parisien, ça serait fantastique quand même.
Oui, bien sûr. Ce serait magnifique.
D'ailleurs, parlons de ta situation en club. Tu es de nouveau prêté par le PSG à Lens. C'est la deuxième saison consécutive. Lens qui est deuxième de Ligue 1 après sa victoire le week-end dernier contre Reims. C'est toi qui as inscrit le doublé, victoire 2-0. Tout se passe bien pour vous et c'est des résultats qui sont au-delà des espérances pour le RC Lens, Arnaud.
On a un bon groupe, comme j'avais dit l'autre fois. On a un très bon groupe avec beaucoup de qualité. Et cela ne m'étonne pas, mais il faut qu'on reste humble et surtout travailleur car nous savons tous que ce n'est que le début du championnat et que la saison est encore très longue. Donc on va se donner les moyens pour continuer sur cette belle dynamique et pourquoi pas accrocher quelque chose de beau.
Je précise que tu es prêté une nouvelle fois sans option d'achat par le Paris Saint-Germain. Ton but, c'est à terme de t'installer dans ce groupe du PSG pour faire partie de l'effectif et avoir un rôle à jouer?
Là, pour l'instant, je suis plus focalisé sur les ambitions que j'ai avec Lens. Donc, je pense pas à l'avenir, mais j'aurai le temps de penser ça après.
Bon, j'ai quand même envie de te poser une question. Tu as vécu de l'intérieur l'arrivée de Léo Messi en Ligue 1 et au Paris Saint-Germain. Tu as partagé des entraînements avec lui. Comment c'était? C'est si fort que ça, Léo Messi, à l'entraînement?
Ah oui, c'est vraiment du génie. C'est vraiment... C'est magnifique, c'est beau à voir, c'est prise d'infos, tout. Techniquement, c'est très serein. Et en fait, on apprend beaucoup aux côtés de ces grands joueurs-là. Donc, je sais que c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire. On peut qu'apprendre.
Ok. Eh ben, en tout cas, merci à toi, Arnaud Kalimuendo. Félicitations pour la victoire d'hier. C'est toi qui avais ouvert le score contre l'Ukraine. Et on te souhaite un bon match mardi soir en Serbie. Rencontre à suivre sur RMC, évidemment. Salut Arnaud, à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
19h57 sur RMC. On remercie Arnaud Kalimuendo d'être venu partager ce moment avec nous. Et dans un instant, on continue avec Fred Piquionnet et coach Courbis, l'intégral foot jusqu'à 21h. Toutes les infos autour de l'équipe de France avec Loïc Tanzi. Comme prévu, pas de mise en place effectuée par Didier Deschamps. Et puis, on va démarrer notre bilan de la Ligue 1 après le quart du championnat. 9 journées disputées. Notre invité, ce sera Laurent Batless, l'entraîneur troyen. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.